La dernière fois, on avait essayé d'approcher l'Odyssée d'une façon assez classique et en montrant que cette approche classique était en elle-même étonnante et surprenante. On avait essayé de voir en quoi il s'agissait d'une épopée. Donc, qu'est-ce que c'est que ce genre de l'épopée et en quoi est-ce qu'il se pose à la fois comme genre à l'époque où Homère l'invente, et il ne l'invente pas tout seul, mais il est l'un des seuls dont on ait encore la trace. Donc, en quoi il postule des choses, il pose des choses et en même temps, en quoi il les questionne immédiatement à mesure qu'il les pose. Donc on s'était rendu compte que l'épopée, c'était à la fois le récit d'actes héroïques et toujours la forme d'un chant, une forme écrite qui se souvient de l'oralité, de la mélodie, du rythme. Et on s'était rendu compte que sur ces deux points, l'héroïsme et le chant, l'Odyssée était à la fois propositionnelle et critique. C'est-à-dire que Ulysse est un héros et en même temps c'est un anti-héros. On l'a vu, on l'a réévoqué tout à l'heure. C'est un héros qu'on découvre en pleurant au bord d'une plage. C'est un héroïsme différent de celui du soldat de l'Iliade, par exemple. C'est un Ulysse très différent de celui de l'Iliade. De même, sur la question de la voix, on s'était rendu compte qu'il y avait à la fois une espèce d'entreprise de déification de la voix du poète par le texte lui-même, qui se prétend inspiré par la muse, et en même temps, il y a une mise en scène des dangers de la voix. Donc la voix n'est pas seulement divine, elle peut être aussi dangereuse, négative. Et évidemment, on avait parlé des sirènes, qui sont le contre-modèle de la voix du poète. Aujourd'hui, je voudrais qu'on ait une approche quasiment ethnologique de l'Odyssée, qu'on essaye de voir en quoi il y a des traits de civilisation grecque fondamentaux qui nous sont délivrés par cette histoire. Alors évidemment, c'est une histoire, ça reste une histoire d'abord et toujours, mais comme toute bonne fiction, on peut en tirer aussi un savoir, une réflexion sur la société où cette fiction apparaît. Et ça m'amusait de vous présenter du coup l'Odyssée comme un traité de maintien. Vous savez, ces livres de bonne manière qui sont dans nos imaginaires plutôt adressés aux jeunes filles du 19e siècle ou du 18e siècle, et qui leur disent ce qu'il faut faire ou pas en société. Les Anglais, ils appellent ça les do's and don'ts. C'est littéralement ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, ce qui actualise le verbe ou ce qui le nie, le verbe d'action. Je crois que dans l'Odyssée, il y a en filigrane, comme ça, mais à force de ratisser, on ramasse, il y a en filigrane une espèce de portrait de l'aristocrate grec idéal, à travers ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire quand on est un aristocrate grec. Et il se trouve que ça m'intéresserait beaucoup moins si c'était juste intéressant pour un aristocrate grec du 8e siècle avant Jésus-Christ, qui est délivré comme idéal là dans l'Odyssée. Il se trouve que je sens dans cet idéal social posé par l'Odyssée vraiment des racines très très profondes de notre propre société. Les Grecs sont fondamentalement des agriculteurs et des éleveurs, fondamentalement des marins, et c'est ces trois choses qu'un bon aristocrate doit organiser paisiblement. Il doit assurer la paix politique sur ses activités. Or, il se trouve que nous ne sommes rien d'autre, même à l'heure du hors-sol et des OGM, que des agro-pasteurs. Il n'y a que deux types de sociétés humaines connues. Ça, c'est ce que nous apprend l'anthropologie avec une profondeur de champ qui donne le vertige très souvent. Depuis que les hommes existent, depuis plus de 500 000 ans, nous n'avons été que chasseurs-cueilleurs ou agro-pasteurs. Donc soit on prélevait directement sur le sauvage, en chassant ou en cueillant, soit on a transformé le sauvage en essayant de régulariser, d'adapter ses cycles à nos propres cycles. Et c'est la naissance de l'agro-pastoralisme, qui est très récente à l'échelle de l'humanité. Ça fait 20 000 ans, 25 000 ans peut-être, qu'on commence à approcher l'agriculture et l'élevage. Et à l'époque où Homère écrit, l'agriculture et l'élevage sont des choses qui sont maîtrisées depuis pas si longtemps. Donc on comprend à quel point ça peut occuper l'esprit d'un aristocrate. Cette espèce d'idéal agro-pastoral, on le sent se dessiner dans l'Odyssée par plein d'aspects. Mais moi, je vous propose de les résumer là, comme ça, pour vous donner une idée d'emblée, par l'opposition de deux figures qui sont extrêmement importantes dans l'Odyssée. C'est d'un côté le cyclope et de l'autre le divin porcher, Eumée, le divin porcher, celui qui s'occupe des porcs d'Ulysse pendant son absence. Pendant 20 ans, Eumée s'occupe des porcs d'Ulysse. Et Ulysse ne cesse de l'appeler divin porcher. Ulysse ou le narrateur? Disons Homère. Divin porcher, c'est écrit partout. Et divin porcher, c'est quand même drôle pour nous, pour nos oreilles. Mais on va voir que cette figure, cette formule, divin porcher, n'est pas excessive dans la tête d'un grec. Quelqu'un qui s'occupe des porcs, qui s'en occupe bien, qui trie la sauvagerie de l'espèce, qui l'organise, il s'approche des dieux par cela. Donc le cyclope, c'est le contraire. Le cyclope, c'est le sauvage. avec ces deux personnages, on a la sensation, en lisant l'Odyssée d'un peu près, d'une certaine façon, qu'on plonge de façon étourdissante dans les racines mêmes de la civilisation grecque, dans ce qui fait qu'un grec se tient debout. Alors, avant d'en venir de près à la figure du cyclope, je voudrais qu'on reparle un petit peu de ces formules que je viens d'évoquer, divin porcher, et dont on a parlé la dernière fois en les considérant du point de vue de l'oralité. Donc, ces formules, c'est des formules au sens strict, c'est-à-dire c'est des petits morceaux de langage qu'Homer ne cesse de sampler, comme un DJ, pratiquement, qui fait du copier-coller d'expressions qui nous semblent toutes faites. Donc, c'est le divin porcher, c'est l'aurore aux doigts de rose, c'est l'aube divine, c'est les paroles ailées. Une expression qui revient extrêmement souvent, celle des paroles ailées. Et de fait, j'insiste, ces formules ont un rôle dans l'art oratoire de l'Aède. Elles lui permettent d'abord de créer la mémorisation chez son auditeur. Il sait de quoi on parle, de qui on parle et quelles qualités on prête à cette personne ou à cette chose. Ça lui permet aussi, s'il est plus ou moins en train d'improviser, d'être sûr qu'il a au moins 6 ou 7 syllabes à caser dans le flux de sa parole. Non mais bien sûr, hein. Comme un jazzman a des tours, des petites formules toutes prêtes. J'avais beaucoup travaillé là-dessus pendant ma thèse, sur le style formulaire des jazzmen, en m'appuyant sur des travaux qui avaient été faits sur l'Odyssée ou sur l'art oratoire des poètes improvisateurs. Il y a une espèce de réservoir de formules qu'on peut tout le temps placer dans le fil de la parole quand on manque un peu d'inspiration pour faire sortir quelque chose de nouveau. Paf, on sait qu'on peut replacer une formule toute faite. Donc voilà pourquoi on parle de style formulaire à propos de la langue d'Homère ou du travail des aèdes en général. Mais il y a beaucoup plus que ça à dire de ces formules. Elles sont composées généralement d'un nom et d'un adjectif, donc typiquement divinulis, une parole ailée. Même l'aurore au doigt de rose en grec, c'est un adjectif qui dit tout ça. Et donc cet adjectif, c'est la fameuse épithète homérique. Quand on lit un tout petit peu de traité de linguistique ou de rhétorique, on entend parler de l'épithète homérique, c'est-à-dire cet art-là de donner des qualités à des personnages ou à des choses. Donc l'exemple typique, c'est plutôt Achille au pied léger dans les traités, dans les textes théoriques qui parlent de l'Odyssée. Parole ailée, aube divine. Beaucoup de choses sont divines dans l'Odyssée, jusqu'à ce divin porcher, donc, qui prête à sourire quand même à nos oreilles. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'enflure dans la langue d'Homère pour aller dire d'un porcher qu'il est divin? Il y a une occurrence très drôle aussi, dès le début de l'Odyssée, à la page 12, qui moi m'évoque les Monty Python. À ces mots, donc il s'agit d'Athéna qui va aller chercher Télémaque. À ces mots, elle se chaussa de ses belles sandales divines, toutes d'or. Alors, ces sandales toutes d'or, c'est drôle, quoi, quand même, c'est des tatanes, et elles sont plaquées, quoi. Vous imaginez un type réalisateur à Hollywood dans les années 50 qui doit représenter cette scène, quoi. Il faut qu'il ait un budget minimum, donc comment il fait pour rendre le côté doré, quoi. Alors, ça m'évoque Hollywood, mais ça m'évoque aussi cette scène géniale dans La vie de Brian, des Monty Python, qui est un de leurs trop peu nombreux longs métrages. Donc, La vie de Brian, c'est ce type qui est né une demi-heure avant Jésus, et qui a failli être Jésus, mais c'est passé juste à côté de lui, quoi. Ça s'appelle pas la vie de Jésus, ça s'appelle la vie de Brian. Et donc il vit une époque absolument frénétique où les gens cherchent des raisons de créer des courants religieux de partout. Donc ils sont passionnés de reliques, par exemple. Dès qu'ils ont l'impression de trouver la relique d'un saint ou quelque chose, ils créent une secte, en fait. Dans le film des Monty Python, c'est aussi un écho au militantisme d'extrême-gauche de ces années-là, en fait, qui est tout le temps en train de créer des nouveaux courants. Il y a une scène avec des slogans qui est absolument à mourir de rire. Mais il y a un jour un type qui trouve une sandale, et c'est la sandale de Brian en fait. Et ils ne savent pas qui a perdu la sandale, et du coup, comme ça peut être n'importe qui, ça peut aussi être un saint qui a perdu la sandale. Et du coup, tout le monde s'emballe, et la sandale devient le motif d'une secte. Voilà. Et ils s'énervent d'une façon mystique autour de la sandale, donc en la portant au nu comme ça. Parce qu'en plus, elle est vraiment, là, celle-là, elle est vraiment pourrie. Quoi. Dans la scène de La vie de Brian, elle est atroce cette sandale. Quoi. On sent qu'elle sent mauvais, que, enfin, vous voyez, c'est vraiment le degré zéro de la sandale. Quoi. Et il y a comme ça une façon de monter en épingle la sandale qui me fait sourire en lisant ça. Quoi. Et du coup, je me dis, mais Homer, avec ses sandales toutes d'or, est-ce qu'il n'est pas en train d'en faire trop? Il va falloir aller contre cette impulsion ironique, comme ça, née du vice des Monty Python, et se dire, pourquoi ce type passe son temps à accoler ce genre d'adjectif à ce genre de nom? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que tout est divin, ailé, etc.? En philosophie logique, un nom et un adjectif comme ça, ça s'appelle un être et une qualité. Il y a une chose qui est autonome et il y a une chose qui n'est pas autonome. Vous pouvez dire Achille, ça suffit. Mais vous ne pouvez pas dire au pied léger tout seul. D'accord? Donc l'être, c'est Achille et la qualité d'Achille, c'est au pied léger. L'adjectif, ça développe une qualité de l'être. Mais quand on répète à longueur d'épopée, sur plus de 12 000 vers, que les paroles des aristocrates sont ailées, à ce moment-là, on fond l'être et la qualité. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on dit « divinulis » ? On ne fait pas que rapprocher un être et une qualité. Ça, c'est le tour de force d'Homère. En fait, on rapproche deux catégories d'êtres. On rapproche les hommes et les dieux. Et on dit « c'est presque la même chose ». Normalement, un adjectif donne une qualité d'un nom. Mais chez Homère, l'adjectif vient prétendre à une qualité divine de certains hommes. En l'occurrence, les aristocrates. Voilà pourquoi je veux vous parler des formules aujourd'hui. Parce que ces formules sont ce qui nous montre que l'Odyssée est traversée par un idéal aristocratique. L'aristocrate, c'est celui qui dit « je suis presque un dieu ». Et il ne le dit pas parce qu'il est vantard, ou pas forcément. Je pense même qu'il y a des gens qui souffraient de complexes d'infériorité chez les aristocrates et qui se sont retrouvés obligés de dire des trucs comme ça. Ce n'est pas par prétention qu'un aristocrate se prétend proche du dieu. Pensez au roi Soleil, hein, évidemment. 2000 ans plus tard, 2300 ans plus tard. Le roi Soleil, Louis XIV, fait la même chose. Et doublement. Parce que droit divin, bien sûr, je suis juste le représentant de Dieu sur Terre. Et en plus, je suis le représentant du dieu païen sur Terre, du grand Soleil, quoi, l'astre. En ce moment, on célèbre la mort de Louis XIV à Versailles, au Louvre et tout ça. C'était des dépenses pour son enterrement. Des dépenses dont on n'a plus idée, quoi. Et les gens étaient soulagés à la mort de Louis XIV. Apparemment, il y avait vraiment une espèce de fatigue. Ils n'en pouvaient plus, quoi. Ils en pouvaient plus de ce type qui ne mourait pas. Qu'est-ce que fait un aristocrate ? Alors ça, c'est valable chez les Grecs, c'est valable chez nous. C'est valable dans toutes les sociétés agro-pastorales. À partir du moment où, en fait, les sociétés agro-pastorales, ce sont les sociétés où se développe la hiérarchie. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs sont toujours des petites sociétés avec très peu de hiérarchie. C'est des groupes de 10 à 200 individus maximum, où il y a donc une hiérarchie entre les dominants et les dominés qui est très faible. À partir du moment où on développe l'agriculture et l'élevage, donc on développe le stock, on développe la possibilité de s'enrichir, parce que les denrées deviennent conservables, et bien la hiérarchie sociale explose. Tous les manuels d'archéologie, de paléoanthropologie nous racontent ça. Et il n'y a jamais eu autant d'inégalités sociales qu'aujourd'hui. Donc c'est l'histoire de l'agropastoralisme et l'histoire d'une inégalité exponentielle entre les plus puissants et les moins puissants. Que doit faire un aristocrate pour maintenir sa posture ? Il faut qu'il se réclame d'une autorité extérieure à l'humanité. Il faut qu'il postule que son pouvoir lui vient d'ailleurs. C'est logique. Si vous êtes face à quelqu'un qui vous ressemble, comment est-ce que vous allez lui dire « obéis-moi » ? Il va vous répondre « mais t'es comme moi ». Quelle est la réponse de l'aristocrate ? Ah non, 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 non ! Moi, j'ai des paroles ailées. Moi, je suis comme un dieu. Je ne suis pas un dieu, mais je suis comme un dieu. Mais là, je vous fais comme si c'était l'aristocrate qui donnait ces réponses-là. En fait, dans les sociétés agro-pastorales hiérarchisées, la caste qui domine n'est pas celle qui produit le discours justifiant sa propre domination. Il y a une autre caste qui s'en occupe. C'est les travaux de Dumézil qui montrent ça, Georges Dumézil. Dans la société indo-européenne en particulier, sur lesquelles il a travaillé, il y a deux grands types de castes à part la société de ceux qui nourrissent les autres, les paysans les plus opprimés en fait. Il y a les militaires et les politiques, quoi, ceux qui s'occupent du pouvoir, et il y a les sacerdotaux. Alors ceux-là, ils sont très intéressants. Donc typiquement les prêtres. Les prêtres sont ceux qui formulent le discours qui permet aux dominants de dire « je domine ». C'est eux qui s'occupent du discours. C'est eux qui s'occupent de dire « lui, il est de droit divin ». Donc typiquement, le type qui confesse Louis XIV. Il a péché, mais c'est pas grave. Il est quand même de droit divin. Richelieu, si vous voulez. Mazarin. Or, dans l'Odyssée, très très mystérieux détail, on rencontre plein de personnages, des personnages très concrets. Il y a un porcher, on rencontre des personnages complètement hallucinants comme les lotophages, on rencontre des cyclopes, mais il n'y a pas un seul prêtre. Il n'y a pas un type qui s'occupe de ce truc problématique chez les hommes, c'est-à-dire quel est notre rapport avec le non-humain. Il n'y en a pas un, sauf le type qui prend la parole au début de l'Odyssée. Et qui dit quoi ? Ô muse, ô muse, ô muse, en gros, dis-moi quoi dire. C'est ça qu'il demande à la divinité. Il n'y a pas de prêtre dans l'Odyssée. Le rôle sacerdotal, il est joué par le poète. À travers ces formules dont je vous parle. C'est lui qui dit... Ulysse est divin. C'est lui qui dit « ses paroles sont ailées ». Donc c'est lui qui dit « c'est Ulysse le king ». C'est lui qui domine. Et il se trouve que là, il est dans une situation compliquée, etc. Mais vous allez voir, il va reconquérir ce pouvoir. Parce que il est pareil à un dieu. Même s'il s'habille en mendiant, on va le voir, même s'il s'habille en mendiant, le pire, c'est lui, l'aristocrate. Mais ce lien des aristocrates et des dieux, il est fragile. Et il doit sans cesse être réaffirmé, réaffirmé et réaffermi. Peut-être pour ça que ces formules sont répétées tout le temps. C'est peut-être une des raisons. Mais elles ne suffisent pas, ces formules répétées. Dans l'Odyssée, la parole elle doit aussi être jointe à des actes qui sont comme elle, comme cette parole, répétitifs et qui sont liants. Des actes très simples, hein, manger, boire, accueillir. Il y a une espèce d'abondance de scènes de repas dans l'Odyssée. Au départ, moi qui suis avant tout lecteur d'Astérix, je ne vois que des banquettes de fin d'aventure, quoi. J'ai l'impression que les types font circuler les sangliers rôtis. Alors, c'est pareil, c'est comme la secte de la sandale. Il faut oublier tout ça et il faut essayer de voir qu'est-ce qui se passe en fait. Pourquoi est-ce que ces actions sont aussi répétitives que ces formules? Pourquoi il y a autant de banquets ritualisés que de « ô divin Ulysse »,« ô tes paroles ailées »,« ô l'aurore aux doigts de rose », etc., etc. Allons jeter un œil dans la citation très profonde, la parole très profonde, du personnage de Ménélas, page 263. Ménélas, c'est le grec aristocrate parfait. C'est un peu le double d'Ulysse. Sauf que lui, il n'a pas eu de problème pour rentrer chez lui. C'est Ulysse à qui il serait rien arrivé en l'an 33. Et bon, il lui était arrivé tellement de trucs avant, parce que c'est lui qui s'est fait piquer Hélène, qui a déclenché la guerre de Troie. Donc il a le droit d'avoir un retour paisible. Regardez ce que dit Ménélas, page 263, dix vers avant la fin de la page. « N'y a-t-il pas tout à la fois ?» C'est une phrase qui sonne drôle à nos oreilles. Et pourtant, elle est très puissante. « N'y a-t-il pas tout à la fois renom, gloire et profit à bien manger avant que d'entreprendre un long voyage ?» Je trouve ça assez drôle, quoi. « N'y a-t-il pas tout à la fois renom, gloire et profit ?» Ça, c'est ce qui peut arriver de mieux à un grec, hein. Renom, gloire et profit. On l'a vu la dernière fois. « N'y a-t-il pas tout à la fois renom, gloire et profit à bien manger avant que d'entreprendre un long voyage ?» Comme ça, on a l'impression que c'est presque un truc rablaisien ou une blague. Mais non, 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 non. Parce qu'il faut se demander ce que c'est que bien manger. Ça ne veut pas dire manger une bonne part, ou pas seulement, ou pas d'abord. En tout cas. Pour Ménélas, comme pour n'importe quel aristocrate grec, ça veut dire qu'on a fait un sacrifice aux dieux avant de manger, partagé la nourriture d'une certaine façon, bu d'une certaine façon, accueilli les autres d'une certaine façon. Il y a derrière chacune de ces actions répétitives un enjeu crucial, dont je vais vous parler maintenant. C'est la question du don et de la restitution. Comment est-ce qu'on donne? Comment est-ce qu'on reçoit? Comment est-ce qu'on rend? Ça, c'est mon deuxième grand point, quoi. Premier point sur les formules. Deuxième point, donner, rendre, prendre. Je m'appuie pour cette analyse sur un texte absolument fondamental et un peu oublié aujourd'hui du très très grand sociologue Marcel Mauss, M-A-U-2-S, début 20e. Mauss écrit au début du XXe sur des sociétés très anciennes et des sociétés beaucoup plus récentes. C'est ça qui est génial avec Mauss, c'est qu'il sait ce que c'est une société. Il a une idée de ce que c'est que la société, puis après il y a plein de déclinaisons pour Mauss. Ça se résume à des déclinaisons, quoi. Donc la société grecque, c'est une sous-catégorie des sociétés méditerranéennes qui font elles-mêmes partie d'un sous-ensemble. Tout ça est bien rangé, il n'y a aucun problème. Donc Mauss a écrit un texte très très important qui s'appelle « L'essai sur le don ». Mauss, c'est un monstre intellectuel, mais qui a toujours écrit des textes qui s'appelaient « essai »,« tentative »,« approche ». C'est le barbu, c'est Jaurès, quoi. On a l'impression qu'il a des ballerines, qu'il avance chaussé de ballerines et qu'il a peur de casser des biscuits secs qui seraient sur le sol. C'est quelqu'un qui avance toujours comme ça, très modestement, quoi. Alors que l'essai sur le don, c'est une somme monstrueuse. Et cet essai sur le don, ce petit mot-là qui a l'air curieux, le don, Mauss l'utilise en nous montrant que c'est un des traits fondamentaux des sociétés humaines. Comment on donne, comment on reçoit, comment on rend. C'est la base du commerce. Il n'y a pas de Wall Street sans une certaine codification très complexe des dons. C'est aussi à la base de la question de l'alliance, des mariages dans les sociétés humaines. Comment est-ce qu'on échange des enfants entre groupes sociaux pour assurer autre chose que de la consanguinité? Donc c'est deux traits hyper fondamentaux dans les sociétés humaines, la richesse et l'alliance. Comment ça se passe dans l'Odyssée? Eh bien, c'est le cyclope qui nous apprend quel est l'idéal aristocratique du don et du contre-don. Parce qu'il fait tout de travers. Et que Ulysse est hyper choqué. Donc c'est une des scènes les plus célèbres de l'Odyssée. C'est marrant, c'est une des plus aventureuses, une des plus romanesques, quoi. Cette espèce de monstre qui mange ses compagnons. Et eux, il faut qu'ils se cachent sous des chèvres pour disparaître. C'est des scènes de cinéma. Et en même temps, c'est des scènes d'anthropologie, vraiment très profondes. Ça nous explique qu'est-ce qui est au cœur de l'organisation sociale pour un grec. C'est le passage fondamental de l'Odyssée aussi. C'est ce qui fait que l'Odyssée est possible, c'est-à-dire que Ulysse a un problème, et que ce problème va être long à résoudre. Quand Ulysse part de Troie, quand l'Iliade se termine, ils ont gagné, tout ça, ils vont rentrer chez eux, ils vont être très heureux. Bon. Sauf que non. Qu'est-ce qui se passe pour Ulysse ? Au départ, il joue un peu de malchance, c'est tout. Il y a une grosse tempête. Bon, ça arrive. Il n'est pas content, mais c'est pas tragique. Et là, par une succession de hasards, il arrive sur l'île des Cyclopes. Donc, jusqu'à l'île des Cyclopes, il a juste pas de chance. Après l'île des Cyclopes, c'est un damné. Il est maudit. Et là, ça va durer des plombes. Là, on sait qu'il en prend pour des années. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe sur l'île des Cyclopes ? Il se passe un gros, gros problème de don. À plusieurs niveaux. D'abord, Ulysse est mal reçu. Ce qui le choque le plus dans la grotte du Cyclope, c'est pas le fait que le Cyclope mange ses compagnons. Pas d'abord. C'est le fait que le Cyclope ne lui offre rien à manger, à lui. Voyons page 154. 154, il y a une petite citation d'Ulysse, entre guillemets, qui est l'avant-dernier paragraphe. Restez ici pour le moment, fidèle compagnon. Vous voyez ? Ils sont sur l'île qui est en face de l'île des Cyclopes, et ils se décident à aller chez les Cyclopes. Et voilà ce que dit Ulysse à ses compagnons. « Restez ici pour le moment, fidèle compagnon. De mon côté, j'emmènerai ma nef et mes rameurs. Je veux aller tâter ces gens, donc les Cyclopes, et savoir ce qu'ils sont, un peuple de bandits et de sauvages sans justice, ou des êtres hospitaliers qui respectent les dieux. » C'est le mot « hospitalier » qui va nous intéresser le plus. Et on va voir que être hospitalier et respecter les dieux, c'est la même chose, en fait, pour un grec. On saute jusqu'à la page 157. C'est la première adresse d'Ulysse au Cyclope. Il sent que ça va chauffer, mais il tente encore un truc. C'est 8 lignes avant la fin de la page. « Nous voici maintenant chez toi. » Voilà ce que dit Ulysse au Cyclope avant de prendre chair, disons. « Nous voici maintenant chez toi, à tes genoux, espérant de ta part un bon accueil. » Voilà la question d'hospitalité. « Mais aussi l'un de ces présents que l'on se fait entre autres. » C'est là qu'il y a du manuel de bonne manière, de façon claire. L'un de ces présents que l'on se fait entre autres. « Crains les dieux, brave ami, car nous venons en suppliant, et Zeus défend les suppliants comme il défend les hôtes. Il est l'hospitalier, l'ami des hôtes qu'on respecte. » Il y a une phrase sur la page juste avant qui vous résume la même chose, à la fin de l'avant-dernier paragraphe. Page 156 donc, c'est les vers 229-230. « Mais je voulais le voir et savoir ce qu'il m'offrirait, cet hôte. » Il n'allait pas se montrer tendre envers les miens. « Ce que veut Ulysse, c'est voir si le type va lui donner comme il faut. » Et en l'occurrence, lui donner à manger. Et que fait le Cyclope ? Il ne respecte pas les dieux et il mange les compagnons. Et la scène où il mange les compagnons, elle est géniale. « Mais il bondit et jetant les bras sur mes compagnons, en saisit deux d'un coup et les fracassa contre terre comme des chiots. » Leur cervelle en giclant mouilla le sol. Il les dépeça membre à membre et en fit son repas, les dévorant tel un lion nourri dans les montagnes. C'est génial. Tout y passa. J'aime beaucoup cette formule. Tout y passa. Ça veut dire que le type est vraiment un porc, quoi. C'est comme un porc. Tout y passa. Entrailles, chair et eau remplies de moelle. Voilà. C'est l'anti-grec. Il fait le pire imaginable pour un grec. Il ne donne pas à manger aux autres. Il les mange. Il les mange. Et il les mange, en plus, il les mange crus. Si encore il les avait cuits, il aurait eu un reste de dignité pour un grec. Il les mange crus, c'est le pire. Donc, Ulysse s'attend à ce que ça se passe avec le Cyclope, comme ça se passe à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, par ailleurs. C'est-à-dire, on sacrifie un animal, et on mange les autres, puis on boit du vin. Donc, on se fait offrir des choses, et on va les rendre, plus tard. Quand on se fait offrir des choses, il faut savoir les accepter, il faut dire merci d'une certaine façon, on va faire un long discours, etc. Et il se passe le contraire. Donc, le Cyclope se place hors des cycles vertueux de don et de contre-don. Conséquence, qu'il meurt. Ulysse ne tue pas d'abord le Cyclope pour venger ses compagnons. Il ne le tue même pas pour s'enfuir. Enfin, il ne le tue pas, pardon. Il le blesse. Il le blesse. Il ne le blesse pas pour s'enfuir. Il le blesse pour lui prendre quelque chose. Lui voler. Lui dérober quelque chose. Le Cyclope s'est placé hors des cycles d'échange. Alors, je vais lui dérober quelque chose. En l'occurrence, son œil. Problème, et toute l'Odyssée sort de là, prendre un truc au Cyclope, c'est prendre un truc à Poséidon. Et là, on est dans un autre régime de dons. Il y a deux types de dons dans l'Odyssée. Il y a les dons entre créatures, essentiellement entre hommes, mais aussi avec les cyclopes, les lotophages, telle ou telle créature imaginaire. Et il y a les dons avec les dieux. Donc typiquement les sacrifices, c'est ce qui est régulièrement appelé de belles hécatombes. C'est comme ça qu'on découvre Poséidon au début de l'Odyssée. Poséidon est quelque part en Éthiopie et il est ravi parce que les Éthiopiens lui offrent une belle hécatombe. Des taureaux par dizaines, quoi. Ils lui ont rôti des taureaux et il est ravi. L'œil du cyclope, c'est extrêmement bien vu, c'est une idée littéraire géniale. C'est un carrefour entre deux types d'échanges. Les échanges entre créatures, et là, Ulysse s'est fait flouer. Il peut tout à fait prendre l'œil du cyclope. Aucun problème. C'est parfaitement légitime. Le problème, c'est que cet œil du cyclope est aussi à l'intersection d'une relation entre Ulysse et Poséidon. Pourquoi ? Parce que le cyclope est le fils de Poséidon, comme tous les cyclopes. Les cyclopes sont les enfants de Poséidon. Donc prendre quelque chose au corps d'un cyclope, c'est prendre quelque chose à Poséidon. Et on ne prend pas un truc à Poséidon impunément. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire qu'il y a des hiérarchies dans les régimes de dons. Et c'est là-dessus qu'Ulysse se trompe. Ulysse pense que, comme le cyclope lui a manqué de respect, il peut lui prendre n'importe quoi, son œil. Mais il oublie temporairement, et c'est un acte d'impiété, que cet œil n'appartient pas qu'au cyclope, qu'il appartient à un dieu. Or, ce qui est primordial dans l'ordre des dons, c'est pas les dons entre créatures, c'est les dons entre les hommes et les dieux. Et pourquoi est-ce que c'est difficile à comprendre pour Ulysse ? Parce que Ulysse est un bon grec. Pour Ulysse, les relations sociales, disons, sont résolues, le problème des relations sociales est résolu par la culture. La culture, ça veut dire simplement bien échanger. On vous offre quelque chose, vous l'acceptez, vous rendrez un jour quelque chose d'équivalent. Si vous accueillez quelqu'un, vous lui offrez quelque chose. Pour Ulysse, tout est clair. On résout les problèmes comme ça. Ou alors, on fait la guerre. C'est ce qui se passe avec les Troyens. L'histoire de l'Iliade, c'est aussi un problème de vol. C'est le vol d'une femme, le vol d'Hélène. C'est deux textes qui reposent sur la question du don et du contre-don, fondamentalement. Le cœur de l'Iliade et de l'Odyssée, c'est des problèmes de don. Donc Ulysse, il se dit, ok, moi je sais ce que c'est que la culture entre nous, je suis quelqu'un de cultivé, je sais bien faire des dons, je sais bien recevoir aussi. Le problème, c'est qu'avec cette hiérarchie de dons, entre les dons entre créatures et les dons entre les hommes et les dieux, il y voit plus clair. Même si il a été insulté dans la relation avec le cyclope, parce que ce cyclope ne lui a pas offert à manger, parce que ce cyclope a mangé ses compagnons, il doit continuer à respecter Poséidon. Et ça, c'est insupportable pour lui, parce que ça veut dire que dans une relation ritualisée avec les dieux, il y a aussi quelque chose de sauvage, quelque chose de non civilisé. Il faut accepter que dans la relation avec les dieux, puisse y avoir un reste de sauvage. En l'occurrence, une saloperie de cyclope, qui ne connaît pas les bonnes manières, quoi. En fait, Ulysse s'imagine que les dieux sont rationnels, que la relation avec les dieux est rationnelle. On règle tout avec de bons dons et de bons contre-dons, avec de bons échanges, de cadeaux, de viande animale, de sacrifices. Il s'imagine que tout ça, ça va s'équilibrer. En fait, ce qu'il découvre avec Poséidon, c'est qu'il y a un truc sauvage, un cyclope, une saloperie, au milieu de l'échange avec le dieu. Et que même si ce truc sauvage m'a insulté, il aurait fallu que je continue à honorer Poséidon. Je crois que c'est un des ressorts vraiment profonds de cette scène nodale avec le cyclope. Alors qu'est-ce que c'est que cette vie cultivée qui est idéale d'Ulysse et dont je m'approche peu à peu depuis le début ? Je voudrais vous en dire un mot supplémentaire. Donc c'est une dernière partie que j'ai appelée Ulysse ou la vie cultivée, en hommage à Michel Tournier et à son Vendredi ou la vie sauvage, puisque c'est presque le contraire. Ce que posait Tournier dans Vendredi ou la vie sauvage comme idéal de vie, c'est pratiquement l'opposé de ce que pense, de ce que vit Ulysse. Ulysse, c'est le personnage cultivé. Alors en quel sens exactement, on va voir. Je joue à la fois sur le sens de cultiver au sens télérama, et puis cultiver aussi au sens agricole. C'est vraiment l'homme de la culture dans ces deux sens, Ulysse. Voilà, une épopée, c'est pas un dictionnaire, bien sûr, mais je crois qu'on peut s'approcher, avec un texte comme celui-là, de ce qui pourrait être la définition de la bonne vie aristocratique, selon Ulysse Homère. Cette bonne définition, on va la rencontrer à l'intersection, au croisement, de plusieurs passages. Et le premier passage va nous ramener à notre cyclope. C'est la première description qui en est faite. J'aime toujours les scènes d'apparition, en fait, dans les textes. Ici, joue des choses très profondes. C'est page 152-153 et ça commence au vers 105. C'est un passage que j'affectionne aussi particulièrement parce qu'on dirait vraiment un texte d'ethnologie. J'ai beaucoup étudié l'ethnologie et à ce moment-là, on dirait qu'Ulysse se comporte comme Lévi-Strauss. Page 152-153, ça commence au vers 105. Je vais lire un assez long passage parce que tout ça est fondamental. Le cœur tout affligé, nous poursuivîmes notre route et touchâmes la terre des Cyclopes. Voilà, ça y est, ils arrivent. Ces géants sans foi ni loi, qui s'en remettent aux dieux immortels et n'exécutent de leurs mains ni plan ni labourage. Repérez bien les formules en ni, vous allez voir. La terre leur fournit de tout, sans travaux ni semailles. L'orge, le blé, la vigne, avec le vin tiré des grappes, que Zeus gonfle pour eux en leur envoyant ses ondées. En gros, ils en foutent pas une. Ils n'ont point d'agora pour juger ou délibérer. Ils vivent établis au sommet des hautes montagnes, dans des antres profonds. Chacun, sans s'occuper d'autrui, pas de politique, exerce son pouvoir sur ses enfants et sur ses femmes. Ni trop près ni trop loin de cette terre des Cyclopes s'étend une île assez petite en face de leur port. À travers ces forêts pullulent les chèvres sauvages. Jamais un pas humain ne vient troubler leur solitude. On n'y voit point de ces chasseurs qui prennent tant de peine à parcourir les cimes des plus hautes montagnes. Cette île ne connaît ni le bétail ni la charrue, mais sans semences ni labour, elle est toute l'année vide d'humains et ne nourrit que des chèvres bêlantes. Les Cyclopes n'ont point de nefs aux flancs vermillonnés, ni de bons charpentiers capables de leur fabriquer des vaisseaux bien pontés et prompts à toutes les besognes, qui vont de port en port, comme ces marins que l'on voit franchir le dos des mers afin de commercer entre eux. Avec des gens pareils, cette île eût vraiment prospéré. La terre en est fertile et pourrait donner tous les fruits. Au bord de la mer écumante, on trouve des herbages tendres et bien mouillés. La vigne y serait éternelle, le labourage aisé. On récolterait chaque été de riantes moissons, tant le sol est gras sous les mottes. Cette île a un bon port qui ne réclame ni amarres ni grappins à jeter au fond, ni câbles à lier. Sitôt entrés, les marins y relâchent jusqu'au jour où il leur plaît de repartir et où les vents se lèvent. Bon, voilà le portrait d'une société, quoi. Ça, c'est une scène que les gens qui s'adonnent aux jeux de rôle, par exemple, adorent. Parce que là, il y a un monde, en fait, imaginaire, mais complètement cohérent. Et ce monde, c'est quoi? C'est l'anti-Grèce. C'est le contraire de la vie grecque. Ce monde, en fait, il n'est pas décrit. Il est décrit en creux. On sait ce que c'est pas. Et on sait vaguement qu'est-ce que c'est. La définition positive qui est donnée, c'est quoi? C'est très flou, c'est des sauvages. Des gens sans foi ni loi. Mais qu'est-ce qui nous est dit là? C'est décrit sur le mode privatif. En linguistique, on appelle ça comme ça. C'est-à-dire ni, ils n'ont point. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas? On résume. Pas d'agriculture. Leurs raisins poussent tout seuls. Zeus l'arrose. Pas de politique. Pas d'agora. Ils vivent chacun sans se soucier des autres dans la famille. Pas de technique. Pas de charpentier pour leur faire de bons bateaux. Donc, pas de commerce. Ils ne peuvent pas commercer par les mers. Là, il y a une définition des Grecs, en fait. Qu'est-ce que c'est des Grecs? C'est le contraire. Des Grecs, c'est des gens qui sont agro-pasteurs, qui ont une vie politique publique, qui ont une technique, et qui sont des commerçants. Voilà. Si vous ne savez pas où aller en vacances, Ulysse ne pense pas du tout que ça fonctionne tout seul, en fait. La circulation des richesses et la circulation du désir. Pas du tout. Ulysse, il pense que ça doit être ritualisé, qu'il faut être hyper cultivé, et non pas sauvage. Et c'est en ça, d'ailleurs, que la civilisation de l'Odyssée, à mon sens, est en train de disparaître. En fait, l'opposition que trace Ulysse entre les Cyclopes et lui, c'est pas entre la vie et la non-vie. C'est entre deux types de vie. Il y a la vie bonne et il y a la vie atroce. Il y a le pullulement des chèvres et des Cyclopes. Le pullulement, c'est ce qui est dit à propos des chèvres sur leur île. Elles pullulent, elles grouillent. C'est de la vie dépourvue de sens. Et il y a la prospérité civilisée. Il dit, à propos de cette île où il y a les chèvres, avec des gens pareils, des Grecs, avec des gens pareils, cette île eût vraiment prospéré. C'est le contraire du pullulement. Il y a pulluler et à faire prospérer. Bon, Ulysse, il est clairement du côté de faire prospérer. Ce qui l'intéresse, c'est faire prospérer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être agro-pasteur. Ça veut dire faire pousser ses fruits, faire pousser sa vigne, faire pousser ses salades. Et ça veut dire avoir un porcher pour s'occuper de ses porcs. Alors, pourquoi est-ce que cet idéal n'est pas seulement, disons, paysan, par exemple, mais aristocratique? Pourquoi est-ce que je vous parle d'aristocrate à propos d'Ulysse et pas de paysan? Après tout, un paysan, même aujourd'hui, José Bové, je pense qu'il se reconnaîtrait dans cet idéal, quoi. Faire prospérer, c'est-à-dire orienter la nature d'une façon pérenne et qui permette aux hommes de se nourrir. Mais c'est aussi une question de politique. Et c'est pour ça que c'est aristocratique. C'est-à-dire qu'une bonne agriculture, un bon élevage, une bonne technique, un bon commerce, ça se passe dans la paix. Et la paix, il faut l'assurer. Et pour l'assurer, il faut des guerriers. Donc c'est les guerriers qui doivent dominer la société. Il y a un côté comme ça de démonstration dans l'Odyssée, de démonstration un peu cachée. C'est marrant, j'ai vraiment, j'ai pas cessé de penser aux parrains en préparant cette leçon, en fait. Sauf que c'est décrit dans Le Parrain comme l'enfer, quoi. On a l'impression que c'est un univers carcéral, l'univers de la mafia, quand on voit les films de Scorsese. Ou même quand on voit Les Sopranos. C'est encore pire, Les Sopranos, parce que le type des Sopranos, il est absolument normal. C'est un Américain moyen, avec un gros ventre, qui boit du coca, qui a plus de cheveux. Et il vit un enfer parce qu'il est soumis à des trucs d'honneur, pas possible, c'est terrible. Mais si tu prends un peu de distance par rapport à un jugement axiologique en bien ou mal par rapport à la société mafieuse, tu retrouves complètement les traits. C'est la même culture, c'est la Méditerranée. Alors, j'en reviens à mon idéal aristocratique d'agro-pasteur qui fait régner la paix. Il y a une autre figure, il y a un autre personnage et un autre passage qui nous permettent, comme je vous le suggérais, de dégager en filigrane ce que serait la définition du bon aristocrate grec, selon Homère Ulysse. C'est la figure du mendiant Hyros. C'est le double négatif d'Ulysse déguisé en mendiant. C'est celui qui redouble l'action des prétendants. Les prétendants qui vivent dans la maison d'Ulysse en son absence pillent ses biens, et Hyros pille les pilleurs. Il parasite les parasites. Il vient manger les miettes des parasites. C'est peut-être ce qu'il y a de pire pour un grec. Hyros, il apparaît page 317. Ulysse vient d'arriver déguisé en mendiant chez lui. Il ne veut pas se faire reconnaître parce qu'il ne veut pas se faire trucider. Et Athéna l'a déguisé en mendiant. Stratagème extrêmement étrange pour un roi que de rentrer chez lui en mendiant. Ça pose presque déjà les bases des pièces de Shakespeare et de Beckett. Fin de partie, le roi Lear sont déjà en germe dans Ulysse mendiant. Et voilà la description qui nous en est faite. Page 317, c'est les premiers vers. Survint un mendiant, le gueux qu'on voyait quémander jour après jour dans la ville d'Ithaque. Il n'était pas plus grand goinfre que lui, mangeant et buvant comme un trou. Il n'avait force ni vigueur, mais bien belle apparence. Bon. La belle apparence, ça veut dire qu'il aurait pu avoir un travail, il aurait pu faire quelque chose. Mais il préfère être un parasite. Page 320, il y a une expression qui prolonge cette description à charge, reconnaissez-le, au vers 114. C'est au moment où Ulysse a mis une rouste à Hyros. Il y a cette scène très bizarre de bataille entre deux mendiants. Et il y a un des prétendants qui remercie Ulysse de les avoir débarrassés de cette espèce de loque. Et au vers 114, il dit à Ulysse, « Grâce à toi, ce gouffre sans fond n'ira plus mendier à travers le pays. » Gouffre sans fond. Goinfre. Gouffre sans fond. Je fais un bref retour en arrière à la page 160 où nous est décrit la façon dont Polyphème, le cyclope, boit le vin qu'Ulysse lui sert. C'est le vers 361, page 160. Trois fois je le servis, trois fois il but sans réfléchir. Ça veut dire qu'Hyros est un homme cyclope. Hyros, c'est le cyclope. C'est le cyclope 2, si vous voulez. C'est le grand retour du cyclope à la fin de l'Odyssée. Évidemment, c'est pas un cyclope, c'est un homme. Mais il a les mêmes tares. Alors, il y a une question de mesure et de démesure qui est absolument fondamentale, en effet. Gouffre sans fond. Et ce que je veux dire en recourant à Hyros et pas seulement au cyclope, c'est que Hyros nous montre bien que l'idéal d'Ulysse est un idéal aristocratique, puisque Ulysse se présente comme le contraire d'Hyros et qu'Hyros est le mendiant. Le contraire du mendiant, c'est l'aristocrate. Hyros est la figure qui nous permet de valider cette idée que l'idéal d'Ulysse est un idéal aristocratique. Quels sont les trois aspects qui distinguent l'aristocrate grec du sauvage, qu'il s'agisse du cyclope ou du mendiant? Il y a effectivement cette question de mesure qui est absolument fondamentale. D'abord, premier des trois points qui distinguent l'aristocrate grec du sauvage. Hyros est sans fond. Sans fond. Un gouffre sans fond. Et ça, pour un grec, c'est terrible. Je vous ai dit qu'Ulysse était dans la métisse la dernière fois. Il a cette intelligence du calcul, de l'anticipation. Le mot grec de métisse désigne comme ça un ensemble de qualités qui est difficilement résumable par un seul mot en français. L'astuce, le calcul, la stratégie. En tout cas, des qualités qui reposent sur la mesure. Ménélas, lui encore, page 263, cette espèce d'aristocrate modèle que je prenais comme référence tout à l'heure, page 263, nous dit, au vers 71, « Je préfère en tout la mesure. » Je préfère en tout la mesure. Si vous voulez, c'est l'alter ego d'Ulysse qui parle. « Je préfère en tout la mesure. » Là, il y a vraiment une opposition très claire, quoi, entre, si on se souvient de ces passages et qu'on les met en correspondance, entre un gouffre sans fond et un aristocrate grec qui préfère en tout la mesure. L'autre point qui distingue l'aristocrate grec du sauvage, c'est la fructification contre la dissipation. C'est le fait d'être un agro-pasteur et non pas un sauvage, pour le coup, dans le rapport au bien. C'est cette notion de prospérité que j'abordais tout à l'heure. Mais le dernier point
crucial qui distingue les deux, c'est que l'aristocrate grec est rituel. Il fait des rituels. Il a des gestes et des actions et des paroles répétitives qui donnent un sens sacré à sa vie. Alors que le sauvage est absurde. Le sauvage bouffe, l'aristocrate grec mange. C'est-à-dire fait un sacrifice, consacre sa nourriture, la partage, est hospitalier. Voilà, voilà. Et voilà donc pourquoi on peut être un divin porcher. J'en reviens à mon cher Eumée. Eumée, E-U-M-E-E. Quoique porcher, Eumée se comporte comme un homme-dieu, comme un aristocrate. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait fructifier un troupeau. Il ne mange pas des sangliers. Il ne bouffe pas des sangliers. Il les transforme en cochons. Donc il a trié les espèces. Donc il est éleveur et non pas chasseur. Et il fait fructifier ce troupeau même en absence du maître. Il est bien plus aristocrate que les prétendants qui confondent le pouvoir et la dissipation des biens. Ils sont vraiment dans l'erreur absolue parce qu'ils pensent que le pouvoir, c'est jouir des biens. Alors que le pouvoir, tel qu'Ulysse entend l'exercer, c'est faire fructifier les biens. Mais, et j'en finirai là-dessus, cet idéal aristocratique de l'agro-pasteur, il y a même une formule qui dit, ça nous ouvre aussi sur la Bible et le personnage de Jésus qu'on étudiera plus tard, Ulysse, pasteur du peuple, cet idéal aristocratique du bon roi qui assure la prospérité, eh bien, à la fois nous en héritons et en même temps, il est en train de se métamorphoser, pour le moins. Parce que toute cette construction intellectuelle, en fait, de la vie quotidienne, qui repose sur des concepts très abstraits, elle s'articule sur une opposition entre la nature et la culture. C'est la grande leçon d'Ulysse. Il faut cultiver la nature. La nature en elle-même ne vaut rien. Elle est même dangereuse. Il faut la cultiver. Trier les espèces, contrôler nos pulsions, aussi bien sexuelles que alimentaires. On verra la question de la fidélité la prochaine fois. Donc Ulysse bâtit sa civilisation, son île, et avec lui l'Europe, sur une opposition entre nature et culture. Et, évidemment, ça on s'en rend pas compte parce qu'on baigne dedans, mais c'est un cas pratiquement unique au monde. Une culture qui repose sur cette opposition entre nature et culture. Une société humaine qui bâtit ses valeurs sur une opposition radicale entre nature et culture. C'est un trait typique de la société européenne. Et là, j'en termine là encore avec les apports de l'anthropologie, puisque un très important et très gros livre, il est important à tous les sens. Vous savez, on dit parfois de quelqu'un qu'il est important, pas simplement parce qu'il a du pouvoir. Le livre très important de Philippe Descola, qui s'appelle « Par-delà nature et culture »,« Par-delà nature et culture », pose les bases de quoi? D'un changement de paradigme, comme on dit quand on ne sait pas trop quoi dire. D'un changement profond dans la société européenne. La société européenne est en train de se rendre compte que cette opposition ne va pas de soi. Pourquoi elle est en train de s'en rendre compte? Parce que le niveau des mers monte, le béton crée des inondations, les poumons sont investis de particules fines. Bref, cette espèce d'hypertrophie et d'autonomisation donnée à la culture sur la nature, comme domination de l'une par l'autre, souvenons-nous de Descartes, comme maître et possesseur de la nature, cette opposition, on se rend bien compte qu'elle flanche. Et du coup, nous voilà bien embarrassés par à la fois cette familiarité qu'on a avec la culture d'Ulysse, parce que tout ce que je viens de vous dire là, une analyse un peu conceptuelle de choses qui sont ancrées en nous, en fait. J'essaie de formuler à travers cette œuvre des choses qui structurent notre rapport au monde. Ces choses sont en train de péricliter. Ce monde tel qu'Ulysse le construit n'est plus tenable. Et donc Ulysse nous montre à la fois ce qui a été et ce que nous devons réinventer, c'est-à-dire tout, ou presque. Mais d'Ulysse, nous pouvons garder la mesure.